إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شر أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على صفوة الخلق المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وسن سنته وارتضى بهديه إلى يوم الدين. أشملنا اللهم معهم بعفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. Donc on s'était arrêté la dernière cours sur le fait de sur le on est toujours dans la série de la traduction de la compréhension de l'Ashmawiyya sur le fait de toucher le sexe. Et j'avais expliqué que c'était spécifique au sexe masculin pour l'instant. Parce qu'on va voir dans la suite que pour le sexe féminin, il y a d'autres règles. Et je continue la suite là. Les ablutions ne s'annulent pas par le toucher du rectum, ni les testicules, ni par le toucher du vagin d'une enfant. Alors le premier des éléments, c'est le rectum. Donc si certains ont pensé, si on touche le sexe à l'avant, le rectum peut annuler. On n'a aucun texte précis et la plupart des savants ne sont pas sont d'accord que le toucher du rectum n'annule pas les ablutions. C'est-à-dire que le toucher de l'endroit n'annule pas. Il est évident que si en touchant le rectum on a de la saleté, de l'impureté qui est là, il faut se laver les mains. Le fait de laver les mains suffit pour enlever le truc, mais on n'a pas l'obligation de refaire les ablutions. Ni les testicules, les parties de l'homme non plus ne rentrent pas dans le fait des ablutions. Certains savants dans d'autres écoles estiment que testicules et sexe sont partis du même élément et que aussi bien l'un que l'autre annulent. Mais c'est une minorité parmi les savants. Ni par le toucher du vagin d'une enfant, donc d'un petit enfant, si on la nettoie. Le fait de toucher les vagins, non, pas. Alors on a deux éléments là aussi, hein, pareil, le toucher, si on touche et qu'il y a de l'urine dans les mains, ben on lave les mains après, mais le toucher même du vagin n'annule pas les ablutions, alors que contrairement à ceux qui pensent que le toucher du sexe masculin annule, c'est-à-dire que si vous touchez le sexe d'un enfant, vous devez refaire les ablutions, pour ceux qui pensent que le toucher du sexe annule les ablutions. Donc si vous pensez que le toucher du sexe, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a deux grandes écoles. La première école qui considère que le sexe est une partie du corps, comme disait Omar, je ne fais pas plus attention en fait du toucher mon nez que de toucher de mon sexe. Donc il pense que c'est un élément comme le corps. Ali aussi qui pense que c'est mudratun, c'est une partie, c'est un élément de chair du corps qui n'a pas plus de, et d'autres qui disent non. Bon, donc on a toujours, donc là on parle de spécificité de la femme, c'est-à-dire le toucher du vagin de l'enfant n'annule pas les ablutions, mais par contre c'est toute impureté qui se déposera sur le corps doit être évidemment lavée. Alors après on rentre dans un autre élément, il dit ni par les vomissements et ni par la consommation de ventre de chameau. Là on a deux éléments aussi qui font divergence chez les savants. Les vomissements, pourquoi les vomissements? Les vomissements est toujours un élément qui est impur. Le vomi est un élément impur. Donc le fait que on puisse arriver à se dire est-ce que le fait de vomir annule les ablutions, évidemment, parce qu'on a un élément impur. Mais certains ont fait une analogie en fait. En pensant au vomissement. Pourquoi? Le vomissement, c'est le contenu de l'estomac qui sort dehors. Alors pour eux, qui sort par les rectums ou par la bouche, ne change rien. Et la réponse à ça, c'est que le fait de rôter n'annule pas les ablutions, alors que le fait de péter, oui. Donc, il n'y a pas d'analogie à faire. Voilà. Mais bon, ils y tiennent à leur avis que certaines écoles pensent que certaines personnes pensent que le vomi annule les ablutions. Donc, mais en tous les cas, dans l'école malikite, elle n'annule pas. Mais vous comprenez pourquoi les gens se sont posés la question sur le vomi. On n'a pas de texte là-dessus, mais en faisant une analogie, et la réponse de l'analogie, je vous l'ai donnée. Ni par la consommation de viande de chameau. Alors, c'est quoi l'histoire de la consommation de viande de chameau? On a un hadith qui est un peu faible. qui, le prophète, il dit si vous mangez la viande de chameau, refaites les ablutions. L'authenticité, certains pensent que ce hadith, il est véridique et qu'il est applicable. D'autres, ils pensent que d'abord, ils ne tiennent pas compte du hadith. Et d'autres pensent que le hadith, bien qu'ils reconnaissent qu'il est authentique, a été annulé par un autre hadith qui venait après. Ce qu'il faut savoir, pourquoi on parle de la viande de chameau, c'est la viande la plus consommée en Arabie à l'époque du prophète. Et à un certain moment, le prophète, il a dit « Tawadza'u min man tamassahunna » c'est-à-dire, refaites les ablutions en ayant consommé tout ce qui a été touché par le feu. En fait, il pensait à la viande grillée. Donc, tout ce qui était viande grillée, cuite, on devait refaire les ablutions. Et à un moment, le prophète, il a dit non. Alors, il n'a pas dit non, mais en fait, dans ses actes, on sait qu'il a consommé de la viande cuite et qu'il n'a pas refait les ablutions. Et les gens qui pensent que la viande de chameau, comme l'école malikite, pensent que la viande de chameau n'annule pas les ablutions, bien qu'ils connaissent le hadith, il dit, on a une incertitude rapportée par les compagnons que le prophète a mangé de la viande de chameau, il n'a pas refait les ablutions avant. Donc à un moment c'était vrai, après c'était annulé. Mais on n'a pas un texte qui vient annuler la première interdiction, si on tient compte que le hadith est pour eux juste. Et les mêmes mecs, en règle générale, je vous l'ai expliqué déjà, tient compte de la tradition qui est à Médine, parce que c'est les enfants des compagnons qui vivent à Médine, parce que c'est là où a vécu le maximum de trucs, et ils disent, si les compagnons n'ont pas appris à leurs enfants qu'il faut refaire les ablutions en mangeant de la viande de chameau, c'est qu'à un certain moment, tout le monde sait qu'on n'a plus besoin de refaire les ablutions pour la viande de chameau. Donc, ça, c'est ce qui concerne la viande de chameau. Après, on a deux éléments. Ni par la pose de ventouse, ni par les saignées. Alors, la pose de ventouse, je pense que vous savez ce que c'est, ça consiste à faire sortir le sang, mais par des ventouses. C'est-à-dire, on a un élément de verre, on fait des toutes petites incisions, et on met un coton généralement avec de l'alcool, un truc comme ça, et on colle la ventouse qui crée une espèce, parce que l'oxygène se concentre dans la ventouse et ça fait une espèce de dépression et ça fait sortir légèrement le sang. On dit chez nous, on s'est enlevé le mauvais sang. D'accord ? Donc par des ventouses, généralement c'est posé sur le dos ou sur la poitrine. Non, ça c'est justement, ça c'est autre chose, c'est les saignées ça. Alors, la ventouse utilise un instrument qui est la ventouse, qui est une espèce de bout de verre, enfin un vase clos, qui permet d'aspirer. Et la saignée est pratiquée on laisse le sang s'écouler lui-même. Alors, ça peut être proche d'une veine. Il y a beaucoup de gens qui font proche d'une veine, qui font couler suffisamment de sang. Ça peut être sur le front, c'est-à-dire des endroits où il y a une condensation de sang qui permet d'évacuer beaucoup de sang. Vous savez que par exemple, si vous vous coupez le bout du doigt, vous avez énormément de sang qui coule. Alors que si vous coupez à l'intérieur de la paume, vous avez très peu de sang qui coule. Pourquoi ? Parce qu'on a une condensation de veines qui est au bout du doigt, qui fait que ça apporte du sang tout le temps. C'est un peu comme un vase clos, il y a beaucoup de sang. Donc les saignées consistent à couper, à faire des incisions dans des endroits où on a une condensation de sang qui est un peu plus truc, pour évacuer un maximum de sang. Donc, pour les malikites, donc les ventouses, l'instrument mécanique, et les saignées, n'annulent pas les ablutions. D'autres pensent que oui, ça annule les ablutions. Ils pensent que ça annule les ablutions, le fait de faire les tubes. On ne pourra jamais résoudre le problème parce que les deux se basent sur des hadiths bien définis et ils tiendront à ça. Alors, la question moderne qu'on peut se poser, est-ce qu'une prise de sang annule les ablutions ? Bah pareil, on rentre dans le même système, non. Elle n'annule pas les ablutions puisque les saignées et les ventouses n'annulent pas les ablutions. Là, on a la prise de sang est un effet mécanique. Généralement, il y a une aspiration. Donc, on n'annule pas les ablutions. Pour répondre à une question moderne. Maintenant, si nous nous tenons compte du fait que on adopte l'école qui dit que les saignées et les ventouses font annuler les ablutions. Si je me coupe assez profondément, est-ce que je dois refaire les ablutions? Il est évident, oui. Parce que, pourquoi je pose cette question-là? Parce que les ventouses et les saignées, c'est volontaire. Et se couper, c'est involontaire. Donc, si un acte volontaire annule, l'acte involontaire annule aussi pour les écoles. C'est-à-dire, si je veux uriner, ça va annuler mes ablutions, mais si l'urine sort sans que j'ai eu l'intention, ça annule aussi mes ablutions. Il n'y a pas de différence entre l'acte volontaire et l'acte involontaire quand il se produit. Aussi bien le volontaire que l'involontaire annule ce qu'il doit annuler. Donc si on pense que les saignées et les ventouses annulent les ablutions, le fait de se couper annule les ablutions aussi. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'acte volontaire et l'acte involontaire. Et après on rentre dans certains éléments, c'est ni par l'éclat de rire dans la prière. Alors il y a une école qui pense que quand on éclate de rire, mais un éclat de rire, pas, je parle pas de sourire, mais quand on éclate de rire pendant qu'on a prière, la prière est nulle. Alors ils disent la prière est nulle, on doit la refaire. La question de dire qu'est-ce qui a annulé la prière? Ça, c'est ce que c'est l'école Malikite qui disent, c'est d'avoir perdu sa concentration pendant la prière, et donc ce qu'on a à faire, c'est de refaire la prière. Ça annule la prière, mais pas les ablutions. L'école Malikite dit, quand vous rigolez dans la prière, votre prière elle est à refaire, mais ça annule pas les ablutions. Et l'autre, ils disent non. Le rire vient du diable. Et c'est comme si le diable vous a touché, vous devez refaire les ablutions. Donc c'est l'école qui dit que le rire doit amener à la... Ça, ces éléments-là, on ne va pas les aborder cette année, je pense qu'on les abordera beaucoup plus tard. Nous parlons de ce qui est néjesse. Qu'est-ce qui est impureté? Les savants ne sont pas d'accord sur seulement les impuretés. Il y a deux écoles, grosso modo, mais après il y a des ramifications. Il y a des écoles qui pensent qu'il y a certains actes qui sont impurs en eux-mêmes. L'acte, quand il est impur en lui-même, fait rentrer les ablutions. C'est comme par exemple pour eux, le fait de toucher le sexe, c'est un acte impur. Donc ça rompt les ablutions. Rire, c'est quelque chose d'impur. Donc ça rompt les ablutions. Donc cela, il y a les autres qui disent non. C'est pas les actes. Les actes ne sont pas impurs, c'est les intentions qui le sont. Donc quand on le fait intentionnellement, oui, mais quand on ne le fait pas intentionnellement, ça ne rentre pas. Et après, on a concernant les choses qui sont impures. Il y a l'école Malikite qui dit rien n'est impur. Pour eux, même le porc, le chien et tout, n'est pas impur. C'est-à-dire, si vous touchez un porc ou un chien, il n'y a pas d'impureté. Ils disent même que le diable n'est pas impur. Le diable, Satan, Iblis, n'est pas impur. Alors on leur pose la question, pourquoi le diable? Il dit, parce que si vous touchez pendant la prière, vous n'êtes pas obligé de refaire les ablutions. Donc en réponse à l'éclat de rire, il dit, c'est un mess mina shaitan, c'est-à-dire que c'est un toucher du diable qui vous a poussé à rire pendant le truc. Donc pour eux, le diable n'est pas impur, donc même le mess n'annule pas les ablutions. Donc on dit, refait la prière, mais on ne refait pas les ablutions. Et les autres, ils disent, non, le diable est impur, le porc est impur, le chien est impur. Donc le fait de toucher un chien, un truc comme ça, on doit refaire les ablutions. D'accord ? Donc on a deux écoles, on reviendra dans un détail une autre fois. Ni par l'éclat de rire pendant la prière, ni par le toucher du vagin par une femme. C'est-à-dire là, une femme qui se touche le vagin elle-même. On a vu que tout à l'heure, il y avait deux écoles, donc ceux qui considéraient que le toucher du sexe masculin est impur, et ceux qui considéraient que non, c'était un élément truc. Là, quasiment tous les savants sont d'accord que le fait de toucher le vagin de la femme, ça ne rompt pas les ablutions. Alors, c'est une bizarrerie, mais il faut comprendre une chose, c'est que les savants, disons la plupart des fois des simples, ne savent pas ce que c'est qu'une femme. Et donc, ils ont une connaissance très limitée. Pour eux, pour la plupart des savants, le toucher du sexe d'une femme ne peut pas amener du plaisir. Donc, la masturbation féminine n'existe pas chez eux. Donc, la recherche, les quatre éléments qu'on a vus au début, c'est-à-dire toucher le sexe en cherchant du plaisir, en le trouvant, en ne le trouvant pas, en le cherchant sans le trouver, qui annule les ablutions. Et cela ne peut pas s'appliquer à la femme parce qu'elle n'a pas de plaisir dans le toucher du sexe. Donc, alors que maintenant les sciences modernes ont montré le contraire, et la connaissance a montré le contraire, certains des savants modernes disent non. Si je pense que le toucher du sexe annule, si c'est mon école, je vais appliquer les quatre principes du début à la femme aussi pareil. C'est-à-dire que si elle touche son sexe dans le but de chercher du plaisir, ça annule ses ablutions. Si elle le touche dans le sens de chercher du plaisir, elle ne le trouve pas, ça annule les ablutions. Si elle le fait intentionnellement, ça annule les ablutions. Si elle trouve du plaisir et que ça, sans le chercher, ça annule les ablutions. Mais si elle ne fait que le toucher, ben, ça annule pas les ablutions.
En fait, là, le problème d'importance que c'est, ça dépend de l'intention qu'on a dès le départ.
Oui, mais c'est les quatre éléments.
Ouais.
Mais comportant le toucher. C'est ça. C'est-à-dire, il faut bien un élément. Si vous le touchez, c'est un toucher direct. D'accord ? C'est quand vous touchez directement peau contre peau. Ça, c'est ça ce qu'on appelle dans l'islam le toucher. S'il y a quelque chose qui sépare, par exemple un gant, ou le tissu, ou le vêtement que vous portez, il n'y a pas de toucher. Mais là, on tiendra compte du fait de chercher du plaisir. Donc, si vous touchez le sexe avec un tissu qui est un intermédiaire, mais que vous avez une recherche de plaisir, c'est un toucher. D'accord ? Donc, vous comprenez bien la différence subtile, mais quand même qui existe, dans le fait de bien donner le sens. Donc, et les autres, ils disent non, le toucher de du vagin de la femme. Alors, et il a rajouté à la fin, et on dit, si elle insiste dans le toucher, elle doit refaire ses ablutions. Alors, et on dit. Alors, pourquoi il a terminé on dit ? Parce qu'il y a une partie de l'école malikite qui, déjà à l'époque, appliquait le principe. Donc, on a su que la femme pouvait aussi avoir du plaisir par le toucher. Et donc, ils insistent sur le fait. C'est-à-dire que si elle insiste vraiment, c'est qu'elle recherche quelque chose de bien particulier. Et donc, ça annule les ablutions. Donc, ça, c'est ce qui concerne cette partie-là. Et bien sûr, il termine toujours toutes les interventions. Donc ça, c'est le chapitre qui annule les ablutions. Et Allah est le plus savant. Wallahu a'lam, c'est-à-dire que bon, c'est la limite de la connaissance, la limite de la vie à laquelle on est arrivé. Et bien sûr, la science appartient à Dieu et c'est Dieu. Donc pour résumer ce chapitre, qui commence donc la Hashmawi, parce qu'il annule les ablutions, ce qu'il faut tenir... ce qu'il faut avoir en mémoire et ce qu'il faut avoir en, je veux dire, non seulement dans sa mémoire là, ce qui est acquis, mais surtout pour pouvoir le transmettre aux enfants, c'est que dans l'islam, il n'existe pas un élément d'impureté dans l'être humain. Même ceux qui admettent que le toucher du sexe annule les ablutions, ne considère pas le sexe comme étant un élément impur. L'être humain est pur par essence. On l'a dit, Al-Had Karam l'a béni Adam, l'être humain a été élevé au-dessus de tout. Il est pur par essence, l'être humain. Et c'est pour ça qu'on dit ce qui annule les ablutions. On dit ce qui annule les ablutions, ce qui oblige au lavage. D'accord ? On ne dit pas ce qui oblige de refaire les ablutions, on dit ce qui annule les ablutions, ce qui oblige au lavage. Pourquoi ? Parce que l'effet premier est de considérer que l'être humain il est pur. Et donc, ce qui pousse certains savants à dire que la pureté est l'état naturel, et donc c'est ce qui est à rechercher tout le temps. Et ils mettent comme obligation, par exemple, à l'être humain, de chercher à rester pur tout le temps. Donc, ils demandent, par exemple, si vous êtes en état d'impureté, de refaire tout de suite après les ablutions, pour rester dans un état de pureté. Mais ce n'est pas une obligation. Mais il dit « stersen », c'est-à-dire que c'est un niveau de... Ce qu'il faut, ça c'est le premier élément. L'être humain est pur et le maintenir dans un état de pureté physique, c'est un état d'excellence. C'est-à-dire que si vous visez l'état d'excellence pour satisfaire Dieu, vous cherchez à rester dans un état de pureté le plus longtemps possible. Tout état qui vous empêche, surtout pour les femmes, tout état qui vous empêche d'être dans un état de pureté, c'est quelque chose qui vous est imposé, donc vous êtes dans un état qui est général. Si vous avez pris l'habitude d'être en état de pureté continuelle, rituel quotidien, pendant que vous êtes pendant les menstrues, vous êtes en état de pureté rituelle pour Dieu. Parce que vous maintenez, c'est comme celui qui fait le jeûne tous les lundis, un lundi il est malade, le jour du jeûne, il lui sera prescrit parce que c'est une habitude qu'il a prise avant. D'accord ? Quand vous avez une habitude, elle continue dans le temps, même s'il y a un empêchement qui vient. Donc c'est une chose très importante à comprendre et à transmettre aux enfants. La deuxième des choses, c'est que c'est un état incompréhensible pour l'être humain. Ce n'est pas un élément qui peut être compris par le raisonnement. Je veux dire, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Quand, par exemple, je pète, on m'oblige à me laver les mains, les pieds et le visage, alors que le rectum, je n'ai aucune obligation de le laver. D'accord ? Donc ça, c'est pas un état qui est compréhensible. Donc, nous, en tant que musulmans, on a une obligation quand même, concernant ça, c'est de réfléchir chacun à son niveau, pourquoi Dieu nous a imposé les ablutions. Bien sûr, les ablutions, on les sait, mais pourquoi Dieu nous a imposé de nous laver les mains, les pieds et le visage? Si on délimite en fait les endroits où les ablutions ont lieu, c'est les cinq extrémités. Extrémité en haut, les deux extrémités là et les deux extrémités du pied. Donc c'est que les extrémités, toute la partie intérieure, donc tronc, truc, jambes, bras et tout, ne s'en rentre pas dans le cadre de ce qui est à laver dans les ablutions et rentre que dans le lavage, mais qui est un lavage total, qu'il est aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc on a, nous comme musulmans, une réflexion à faire, c'est pourquoi Dieu nous a imposé ça. Bon, il y a beaucoup de réponses, mais on doit le chercher. C'est-à-dire que Dieu nous demande de comprendre les choses. Il ne nous demande pas seulement d'appliquer, même s'il n'y a pas une compréhension mentale, il y a une réflexion à faire sur les éléments-là, sur ces éléments-là. Pourquoi ces éléments-là sont mis en avant et pourquoi ces éléments-là procèdent de les ablutions et pas le reste du corps. D'accord ? Donc, on a... Premier élément, il faut comprendre que l'état de pureté est essentiel. Le deuxième élément, c'est de comprendre pourquoi ces éléments-là amènent un état de pureté. Le troisième élément, c'est que c'est des choses qui nous sont imposées et que la compréhension du pourquoi, du comment et tout ça n'a pas besoin d'intervenir. Vous allez me dire, je suis en contradiction à ce que je vous ai dit en deuxième. Non, c'est pas. C'est-à-dire que je ne vais pas dire pourquoi Dieu m'oblige à me leur laver les mains. Ou me laver le visage, ou faire ceci, ou faire cela, c'est une contrainte. Non, c'est un élément qui est survenu, qui doit permettre, c'est un élément qui doit lever un empêchement, le fait qu'on ne peut pas accéder à la prière et à certains rites, par un rituel, par le fait de se laver. Donc, la relation entre le rite et le lavage, et n'a pas besoin d'être comprise mentalement, mais doit être intégrée. Il faut que l'individu accorde autant d'importance au rite des ablutions qu'à la prière. C'est la plupart des gens, les ablutions, c'est comme je me lave les mains. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Non, c'est une adoration à part entière. Que le prophète, le verset coranique, il y a eu la dîna amunu idha qumtum ila salat, ou vous qui croyez quand vous vous levez pour le truc, et il cite lavez-vous les mains. Non, il cite le but, c'est la salette, mais il dit vous pouvez pas y arriver sans passer par cette étape là. Et donc si l'étape, on dit toujours ce qui mène à une obligation, est une obligation en lui-même. Parce que si tu ne peux pas arriver à l'obligation sans passer par ça, c'est une obligation à on ne peut pas accéder à la prière sans passer par le wudu. Donc les ablutions, c'est une obligation. On ne peut pas partir à la Mecque sans voyager, donc le voyage est une obligation. D'accord ? On ne peut pas donner la zakette sans utiliser son argent à soi, c'est une obligation. D'accord ? Donc ce qui mène à une obligation est une obligation en lui-même. Donc cet élément-là, la plupart des gens n'accordent pas d'importance aux ablutions, et donc ça diminue de la puissance spirituelle de la prière. C'est-à-dire que si on accordait suffisamment d'importance aux ablutions, c'est une préparation psychologique et physique à la prière. Et on voit très bien que les gens qui donnent de l'importance aux ablutions, c'est des gens qui ont un khushur, c'est-à-dire une concentration pendant la prière et un amour de la prière, et qui est plus grand que la plupart des gens. Pourquoi ? Parce qu'on prépare. Un exemple tout simple, quand vous regardez les compétitions sportives, vous voyez toujours les gens, les sportifs en train de se concentrer avant de commencer à courir. On a besoin. Dieu nous a proposé des éléments qui vont amener à l'acte final d'adoration suprême qui est là, le truc, mais par des actes de préparation. Dans l'acte même des ablutions, quand vous vous levez, alors, qu'est-ce que ça veut dire, on dit quand on se réveille? Non, le mot komtum, si on cherche même pas à le traduire par le fait de se lever, en fait c'est vous allez à la prière. Et il nous explique que en fait, le verset coranique nous dit, dans son sens général, si vous avez la volonté d'aller à la prière, si vous vous déplacez, moi souvent j'utilise aussi le mot de hijra, l'immigration. On migre de l'état de laïcité de la vie de tous les jours vers un état de spiritualité, et ça on le fait 5 fois par jour. Si la prière devient une migration du problème quotidien, de train-train de tous les jours, vers un endroit de paix qu'on aime, et évident qu'on n'a pas envie de revenir. On n'a plus envie de revenir de l'endroit où on est bien. Si vous allez en vacances et c'est l'endroit qui vous plaît le plus du monde, vous le quittez toujours à regret. C'est-à-dire le revenir. Et là, la prière doit devenir un endroit de migration, un endroit de truc. Et on a des éléments de préparation. Pour vous donner l'exemple, imaginez que vous avez la capacité, par exemple, vous adorez les Caraïbes, il suffit de cligner des yeux pour être aux Caraïbes. C'est-à-dire, n'importe quel moment de la journée, en clignant des yeux, pof, vous vous retrouvez aux Caraïbes. Je ne suis pas sûr que ça restera le plus beau endroit que vous aimez. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui vous y amène. Enfin, il n'y a pas d'empêchement. C'est la distance de la séparation qui fait le désir. Et il faut une préparation psychologique. Pour ça, je donne souvent l'exemple, moi, le pèlerinage. Les gens qui allaient au pèlerinage avant, ils mettaient 3 semaines, pour ceux qui sont très près, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans, il y en a qui mettaient 10 ans pour arriver. Quelqu'un qui part du Sichuan, qui est une région très musulmane en Chine, qui va en pèlerinage à pied, ou à dos de chameau, ou à dos de mulet, pour arriver à la Mecque et pour retourner chez lui, il va mettre un certain nombre de temps, comme dirait Fernand Renaud. Donc, ce trajet-là, c'est une préparation psychologique. Ces gens-là sont au pèlerinage le jour où ils ont quitté leur maison. Alors que nous, maintenant, on va à l'aéroport, 4 heures après, on y est. Il n'y a aucune préparation. C'est pour ça que quand les gens, ce que je regrette, mais regardez autour de vous les gens qui partent, ils partent comme ils reviennent. Ils n'ont pas changé de visage. Alors que là, le pèlerinage, c'est quelque chose. Si vous les voyez là-bas, vous verrez que le visage a changé. Ce qu'il est en train de vivre, ça vous change physiquement. Hein, pour ceux qui on voit que les gens sont lumineux. Les gens autour de nous, dans le pèlerinage, sont lumineux. Pas tous, mais la plupart sont très lumineux, il y a une foi qui les porte. Et alors le problème, c'est que ça se pose quand vous retournez. Alors, même si vous retournez avec cette lumière, vous la perdez petit à petit. Et à un moment, le pèlerinage, ça devient un vieux souvenir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas traversé l'étape nécessaire, aussi bien de la préparation pour aller au pèlerinage, que la préparation de l'assimilation. D'assimiler ce qu'on a vécu et de le garder à l'intérieur de soi. Parce que ce que vous vivez de bien, si vous ne l'assimilez pas, vous ne pouvez pas le garder. C'est impossible. Il faut assimiler ce que vous vivez pour pouvoir le conserver. C'est-à-dire que dans une relation, c'est la différence entre une vie commune et une aventure qu'on a eue. Une vie commune, ben, on vit heureux très longtemps. Quand même, on peut vivre 2-3 ans très bien avec son épouse ou son époux. Après, bon, il y a la vie de tous les jours qui rentre et tout. Mais une histoire que vous avez vécue pendant 3 jours, qu'est-ce qui se passe ? À 60, 70 ans, vous y pensez encore, pour certains. Pourquoi ? Parce que là où il n'y a même pas eu d'événement, elle a été remplacée par quoi ? Par l'idéalisation. On a idéalisé une relation qui n'a duré rien dans votre vie, qui représente quelques secondes de votre vie. Alors qu'une grande expérience, elle ne représente rien du tout. C'est, pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, on a eu une action qui est l'idéalisation de la relation, et dans l'autre, on n'a pas réfléchi à ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il faut rapprocher ça du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit j'ai vu les femmes, j'ai vu l'enfer, et j'ai vu que le maximum des personnes dans l'enfer, c'est les femmes, parce que tankuru l'ashir, c'est-à-dire elles refusent de reconnaître que ce qu'elles ont vécu avec leur époux n'est pas que des choses mauvaises choses. Là, elle dit 30 trucs, après elle dit j'ai rien jamais vu de bien de toi. Nukr l'ashir, c'est ça. Pourquoi ? C'est l'assimilation des vécus quotidiens, mais ça c'est pas seulement dans le couple. Moi par exemple, il y a une chose, quand je fais la préparation les gens pour le pèlerinage, je leur dis, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller au pèlerinage, leur pèlerinage ne sera pas accepté. Je vous le dis tout de suite, maintenant vous serez, c'est pas la peine d'aller au pèlerinage, vous ne serez pas accepté. Pourquoi vous ne serez pas accepté ? Parce que c'est des gens qui ne, avant même de partir, pendant tous les adieux de partir, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Ils te disent, oh, on souffre, regardez les chaleurs, l'avion est en retard, ils m'ont mis au 7e étage, l'ascenseur et tout. La personne ne voit pas qu'il a voyagé en 2 heures pour arriver là-bas, il est dans un hôtel climatisé, Amina est sous une tente climatisée, qu'il a de la nourriture à profusion, qu'il y a des médecins, qu'il y a de l'eau. Tout ça, il ne le voit pas. Ça, c'est kufr al-na'ma. C'est refuser de reconnaître les bienfaits que Dieu nous donne. Il nous donne tous ces bienfaits et quelle est notre réaction ? On dit, ah, qu'est-ce que j'ai souffert ? Oh mon Dieu, c'était une souffrance intenable. Ça, cette personne qui fait son pèlerinage et qui a cette kufr al-na'ma de Dieu, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que Dieu veut lui pardonner ? Il lui montre ses bienfaits, il les jette devant lui en lui disant, non, ça c'est de la souffrance qui me fait souffrir. Donc, il y a une préparation psychologique dans tous les événements de la vie. Dans les ablutions, c'est une préparation à la prière. Donc, elle a une importance énorme. Vous imaginez quelqu'un qui part avec cette mentalité de refuser de tout ce qu'il subit, il dit, ah, mais c'est une souffrance. Oh, la chaise était pliée. On nous a trimballé dans un bus, on s'est arrêté, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Ça, c'est de la... Qui pense un peu celui qui est allé à pied ou à de chameau, ou en bus. Vous imaginez, les gens, après, quand ça s'est modernisé, on allait en bus, mais pas aller en bus, certains frères le font d'ici, de France, il faut quand même une dizaine de jours, 15 jours. Vous imaginez 15 jours dans un bus. Non-stop. Et ils sont contents. Ces gens-là, ils sont heureux. Parce que pourquoi ? C'est 15 jours de préparation ce qu'ils vont vivre. Ils ont vécu une communauté de liens pendant ces 15 jours. La souffrance au début s'est transformée en préparation psychologique et spirituelle au hajj. Vous voyez ? Comment on peut transformer un supplice en une préparation ? si les ablutions sont obligatoires, c'est quand même une préparation, même s'il y a une contrainte. C'est une préparation. La préparation est énorme dans l'islam pour emmener. Si on a un problème avec une adoration bien particulière, les cinq adorations, c'est-à-dire Shahed, on dit souvent les gens, je ne vois pas comment, si il y a une grande. Parce que celui qui il y a des gens. Maintenant, on ne peut pas imaginer que quelqu'un va adorer une statue, ce n'est pas dans la mentalité de l'être humain. Mais combien adorent leur BMW et leur Mercedes? Hein? Et combien adorent plus l'Olympique de Marseille que Dieu? C'est pas du shirk, ça? Ah, d'accord. L'adoration, c'est très 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 important. Hein. Et on dit non, mais en fait, non, mais shirk, il est plus répandu maintenant qu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le premier problème. Deuxième, celui qui a problème avec la salette, il faut qu'il voit ses préparatifs de la salette. Celui qui a un problème pour sortir son argent, qui regarde comment il a préparé, comment il a acquis cet argent-là. Le jeûne, c'est pareil. Celui qui a un problème avec le jeûne, qui dès que le ramadan s'approche, ça y est, il commence déjà à maigrir. À la fin du ramadan, il prend 17 kilos. Et puis il souffre à longueur de journée, le pauvre. Et le hajj. Tout ça, c'est les préparatifs. Dieu il nous a mis des préparatifs avant, un accomplissement pendant et une manière d'acquérir ce bien après. Par exemple, pour la prière, les préparatifs avant, c'est les ablutions. Et ce qui va consolider ce qu'on vient d'acquérir, c'est le doa qu'on fait après la prière. Mais le doa, on n'est pas obligé de rester assis à sa place. Hein. Les compagnons ne restaient pas assis à la place. Ils retournaient à leur boulot en faisant leur tesbih, tashhid, talil. Ils le faisaient en allant et ils continuaient à le faire pendant leur travail. Donc, il y a toute une forme. Je pose toujours la question aux enfants. Je leur ai dit, le foot, ça marche bien parce qu'ils comprennent tous les trucs. Comment ça fonctionne avec le foot, ça c'est facile à comprendre. Je leur dis, est-ce que quelqu'un qui fait de la natation, il le fait pour le foot? Ils me répondent non. Alors ceux qui font du foot, ils disent oui. Pourquoi? On leur demande pourquoi ils font ça. Ben pour se muscler. Ceux qui pratiquent savent. Donc ils savent que le foot, c'est pas jouer avec un ballon, mais il faut faire de la respiration. On peut, un des enfants, j'avais dit, mais voir un psy, est-ce que ça fait partie d'un foot? Tout le monde a répondu non, sauf un qui veut être footballeur. Il m'a dit oui, parce qu'il faut avoir un bon mental. Et lui, déjà à son âge, il a compris. Mais dans notre pratique, on ne fait pas les liens. Donc on ne sait pas que ça, c'est pas un but. Il y a plusieurs préparatifs et tous des éléments qui viennent s'incruster les uns aux autres. Et quand on essaie de travailler petit à petit, on n'a même plus besoin de travailler sur le milieu. On a petit à petit, tout se met en place et on avance tranquillement. Alors, c'est pareil comme le truc sportif, quelqu'un qui porte des poids, il finit par avoir très mal aux muscles, il porte 180 kilos, il va arrêter 15 jours pour se reposer, et quand il va reprendre, il va trouver que les 180 kilos, c'est plus vraiment 180 kilos, ils sont devenus plus légers là, parce qu'il y a eu un temps d'assimilation, et c'est comme ça, quand vous courez 500 mètres, votre médecin le vous conseille, au début vous êtes allaité, après quelques jours vous courez plus facilement, au bout d'un moment, vous 500 mètres, vous avez l'impression que vous courez les 500 mètres sans aucun effort, vous dites, il faudrait que je rajoute 500 mètres parce que ça m'apporte plus que ça m'apportait avant, le bienfait, tout ça. Et donc c'est pareil, et ça se fait naturellement. Mais quand on a les préparatifs qui ne sont pas correctement faits, le résultat, on ne peut pas l'obtenir. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.